RCF.
Bonjour madame, vous désirez ?
Monsieur, mon médecin m'a ordonné un savon neutre, doux à la peau et dont le parfum soit un parfum naturel. Avez-vous cela ?
Bien sûr, c'est même le seul savon qui se vende maintenant.
Nous accordons aujourd'hui une attention particulière à la propreté et à l'hygiène. Se laver, prendre soin de son corps est en principe une notion acquise grâce à l'éducation que nous recevons dans nos familles et dans le milieu scolaire. Mais l'eau n'a pas toujours été aussi accessible et aussi bien considérée qu'aujourd'hui. C'est l'histoire de l'hygiène et de la propreté que l'historien Didier Nourisson retrace pour nous cette semaine. Il est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lyon Claude Bernard et il est spécialiste de l'histoire de la santé. Et comme il va le souligner dans ses entretiens, les notions d'hygiène et de santé sont depuis toujours indissociables, que l'on parle de santé physique ou de santé morale.
On pourrait même d'ailleurs dire que la santé, c'est l'hygiène et vice-versa. C'est issu d'un verbe grec, hygieino, je me porte bien, donc c'est ce que nous appelons santé. Se bien porter, c'est la santé. Et hygieino, c'est important de bien noter qu'il s'agit d'un verbe, c'est-à-dire donc une action. L'hygiène ou la santé, c'est d'abord un acte, un geste, avant d'être une théorie ou une science. Et c'est un acte qui nous vient de l'Antiquité gréco-romaine.
Comment se fait-il qu'on associe aujourd'hui l'hygiène à la propreté uniquement ?
Alors, on verra que c'est au XIXe siècle, à partir du moment où on s'est aperçu que le corps était concerné par la santé, en quelque sorte, qu'on a voulu laver le corps, le rendre propre ou le présenter propre. Et on a beaucoup insisté, donc, dès lors, au XIXe siècle et à partir du XIXe siècle, sur la propreté. Et aujourd'hui encore, l'idée d'hygiène, c'est avant tout l'idée de propreté, mais c'est une idée un peu réductrice.
Dès l'Antiquité, Didier Nourisson, on voit que les gens ont le souci de l'hygiène, notamment à travers les bains publics.
Les hommes de l'Antiquité ont le souci d'eux-mêmes. Ils ont envie de se bien porter, ce qui est tout à fait naturel. Ils ont déjà des médecins pour les aider à se bien porter et on cite toujours Hippocrate. Alors, Hippocrate, effectivement, dès la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, début du 4e, va donner des conseils de santé et d'hygiène à toute la population, lettrée, évidemment. Donc, on a des écrits d'Hippocrate qui insiste sur les pratiques de santé. Alors, par exemple, l'idée d'une modération dans les consommations, et notamment, évidemment, dans les consommations de vin. On a des conseils d'Hippocrate également sur la propreté.
Par rapport à cette notion de propreté, le rôle des bains, dont on sait l'importance dans la Grèce antique et puis surtout à Rome, est-ce que c'est là qu'on va se laver ?
Les bains, qu'ils soient pris dans les thermes publics ou dans les thermes privés, parce qu'on a des villas romaines qui sont dotées de bains, effectivement, jouent un rôle essentiel dans la vie civique. Dans la vie citoyenne. C'est là que non seulement on purifie le corps, donc on se met dans une attitude très accessible aux autres et par la purification, et puis c'est là qu'on rencontre les autres. Autour des bassins, on va dire, se jouent des échanges, se mêlent les hommes. Je précise bien les hommes, puisque les femmes ne sont pas nécessairement admises au même moment que les hommes dans la Grèce antique.
Mais elles ont quand même accès aux bains aussi.
Mais elles ont accès aux bains, effectivement, à d'autres moments. Mais vraiment, ce sont les citoyens, j'allais dire, qui se baignent ensemble, nus bien entendu, et qui réalisent un acte de citoyenneté, en quelque sorte, par le bain lui-même. Parce que c'est un faire valoir le citoyen que d'aller au bain.
Le savon de Cléopâtre.
Le savon de Cléopâtre.
Le savon de Cléopâtre.
La suite de l'histoire.
Alors, il faut dire aussi que on maîtrise très bien à cette époque-là l'utilisation de l'eau et les arrivées d'eau dans les grandes villes. On voit encore des aqueducs, ça a quand même beaucoup contribué justement au développement de ces bains. public et privé.
Absolument. Il y a une gestion de l'eau qui est très rigoureusement exercée, puisque la ville centrale de la cité va être effectivement le lieu d'arrivée des eaux captées dans les montagnes voisines. Et autour de Lyon, on a un bon exemple de ce réseau d'aqueducs qui irrigue la ville, comme on en a un exemple aussi vers Rome, à Rome évidemment. Ces captations d'eau sont stratégiques pour la vie même de la cité. L'eau devient l'énergie vitale du corps civique, c'est-à-dire de l'ensemble des citoyens. Et du coup, la création d'un réseau d'eau est une création d'ordre public. Et il faut savoir que la maîtrise de l'eau passait par la police de l'hygiène.
Il y avait une police de l'hygiène ?
Il y avait une police, disons qu'il y avait des forces de l'ordre qui étaient chargées de surveiller non seulement évidemment l'eau qui passait dans les aqueducs, dans les conduits, mais de veiller à ce que personne n'obstrue l'eau ou pas d'obstacle naturel. L'hygiénisme, dont on parlera certainement, c'est-à-dire la politique d'hygiène, commence très tôt par la gestion et la maîtrise de l'eau.
Les Romains sont très forts aussi pour trouver des sources naturelles d'eau bienfaisante. Les villes thermales sont parfois très très anciennes.
Il y a cette idée que l'eau est bienfaisante aussi parce que l'eau est d'essence divine. Vous avez des déesses, ce sont souvent des femmes, à l'origine des sources et qui donc donnent à l'eau un pouvoir quasi magique. Je pense effectivement à des termes et en particulier à des déesses comme Segeta, en Gaule romaine, dans la cité des Ségusiaves, dans l'actuel département de la Loire, si l'on veut, on a les eaux de Segeta, Aquae Segetae, qui va donner naissance donc à des termes assez importants à ce moment-là.
Si vous voulez un savon de toilette, qui soit très doux, qui sente vraiment bon, un seul nom doit vous venir en tête, mon savon, mon savon, mon savon.
Guigui Nourisson, l'invention du savon, elle est très ancienne.
Ah ben le savon est effectivement une invention extrêmement ancienne. On produit des huiles, on produit des graisses, donc huiles végétales, graisses animales, dans la plus haute antiquité, du côté donc du Proche-Orient actuel. Déjà, les peuples sumériens, babyloniens, tout ça, syriens, ont inventé le savon. On connaît aujourd'hui encore le savon d'Alep, c'est une ville de Syrie, et c'est inventé depuis la plus haute antiquité.
Donc le savon, qu'est-ce que c'est ?
C'est un mélange, c'est toujours un mélange, mais d'huile végétale et puis de graisse animale et puis de terre, un mélange d'éléments, comme dirait Hippocrate justement, l'eau, la terre, et ça ne peut être que bénéfique au corps qui lui aussi est constitué d'éléments.
Et donc on se frotte avec ce savon, c'est vraiment dans le but de se laver qu'on invente le savon ?
Dans le but de se purifier, plus exactement. C'est un rite propitiatoire, purificateur. Il ne s'agit pas simplement d'éliminer les scories du corps, il s'agit vraiment d'être propre pour être visible aux dieux et agréable aux autres.
Avec quoi on se lave les cheveux, par exemple, pendant l'Antiquité, la même chose ?
C'est la même chose, avec des huiles qui dégraissent. C'est très important, les cheveux. Il y a toute une histoire du poil qui a été faite dernièrement, d'ailleurs. C'est vrai que le cheveu va jouer un rôle essentiel.
Chez les femmes, notamment, ou même chez les hommes ?
Chez les hommes et chez les femmes, et regardez ou lisez la Bible, le rôle des cheveux est essentiel. Et quand on veut tuer un homme, on commence par lui couper les cheveux, par exemple.
Et donc, on apporte un soin particulier aux cheveux.
Alors, on apporte un soin particulier aux cheveux. Donc, il s'agit là de paraître beau et puissant par sa chevelure. Et donc, on tient à soigner cette représentation de soi-même que l'on donne à voir.
Donc si on résume cette première période que nous avons évoquée, Didier Nourisson, pendant l'Antiquité, la notion d'hygiène est plutôt associée à une notion de purification. Il faut être pur.
Alors, il y a encore un rite que je voudrais rappeler parce qu'on l'utilise tous les jours, pratiquement. C'est le rite de la libation. Quand on porte une santé, on lève son verre depuis l'Antiquité en direction du ciel. hein, et on verse parfois quelques gouttes pour les dieux avant de porter le verre ou la poterie, hein, le gobelet, à sa bouche. On a déjà cette pratique du porter une santé, hein, c'est comme ça qu'on dit, et d'ailleurs on dit à votre santé aujourd'hui de manière extrêmement courante dès lors qu'on trinque.
Au Moyen-Âge, Didier Nourisson, la notion d'hygiène et puis surtout le rapport à l'eau change beaucoup par rapport à ce qu'on a dit de l'Antiquité, où l'eau était considérée comme bienfaisante. Les Romains notamment l'utilisaient beaucoup. Qu'est-ce qui se passe au Moyen-Âge ?
D'abord, rappelons que le Moyen-Âge est une énorme période de 1000 ans et que tout n'est certainement pas uniforme durant ce millénaire. Donc, effectivement, tout change. Alors, qu'est-ce qui fait l'unité du Moyen-Âge ? Eh bien, c'est la chrétienté. On est en chrétienté, on vit en chrétienté et la société est religieuse, sinon elle n'est pas. Et cela va modifier complètement la donne par rapport à l'Antiquité en matière d'hygiène, comme en d'autres matières, évidemment. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est dès lors les clercs qui gouvernent, qui dirigent et qui essayent d'assurer aux hommes les voies du salut. La santé devient le salut. Il s'agit de préparer, d'assurer la vie éternelle.
Au détriment de la vie sur terre ?
Alors pas au détriment. La vie sur terre doit être préparatoire à la vie éternelle, au salut. Donc, pour s'y préparer, il faudra avoir une vie édifiante. Ce n'est pas le côté saint que l'on va chercher, mais c'est le côté saint, avec un T. Et les plus grands saints, j'allais dire, ne sont pas des êtres nécessairement propres. On a le souvenir de Jean le Baptiste, hein, qui vivait au désert avec le corps recouvert de bêtes, mais qui a résisté à la tentation. Donc Jean le Baptiste est un exemple de sainteté et non pas évidemment de propreté.
Où le corps d'ailleurs est souvent considéré comme une partie de soi à dompter et à maîtriser.
Alors le corps est un danger parce que le diable, le malin, va trouver les voies d'intrusion par les ouvertures du corps. Et tout ce qui est ouverture du corps donc est suspect dès lors, et c'est le corps lui-même qui va être suspecté d'être pris par le malin. Comme on est pris de boisson, eh bien, on risque d'être pris par le malin et dès lors de rompre cette alliance privilégiée d'avec Dieu. Et c'est cela qui met en péril la santé, évidemment, c'est-à-dire le salut, hein, tout simplement.
Mais quel rapport avec l'eau, par exemple, qui tout d'un coup devient un lieu maléfique ?
Alors l'eau, elle est courante ou elle est croupissante dans les marécages et elle est un lieu de monstres invisibles déjà et de diables, de diablerie, puisque l'eau est terrestre et l'âme aspire au ciel. Donc si l'eau rentre dans le corps,
pénètre dans le corps,
elle peut véhiculer le diable qui prend possession du corps et conduit l'homme vers l'enfer, c'est-à-dire le sous-sol si j'ose dire. Donc effectivement l'eau devient potentiellement maléfique après avoir été quand même le moment de la purification.
Bon, allez, symphonie-vous de bon cœur et insistez bien sur les pieds.
Le savon et les salles de bain sont là.
Allez-y, franchement.
Je vous laisse. Qu'est-ce qu'ils ont nos pieds, messieurs ?
Je n'en sais rien, ce gueux finasse sans arrêt. Ah. C'est bouilli.
Ça veut dire qu'on ne se lave plus au Moyen-Âge ?
Alors, on va bien sûr quand même se laver, mais peu. On invente des méthodes, ce qu'on va appeler la propreté sèche, la toilette sèche.
Hein. C'est-à-dire ?
Justement, qui évite l'eau. Hein. On se frotte avec des herbes pour enlever le plus gros des croûtes. On se parfume.
Dès le Moyen-Âge, on commence à se parfumer ?
Bien sûr, oui. Autant que faire se peut. Alors, c'est pas des parfums qui, aujourd'hui, nous plairaient beaucoup. Hein. Le musc des animaux, par exemple, est un parfum très apprécié, très accessible. Bon, aujourd'hui, c'est à peu près insoutenable au point de vue odeur, mais ça permet justement d'éviter le rapport à l'eau. Alors, il y a des mâles pensants, des malfaisants peut-être même, qui osent le bain à la rivière, c'est pas dans les canons de l'Église.
C'est pas bien vu. Hein.
C'est pas très bien vu. Hein.
D'ailleurs, est-ce qu'il est vrai que l'Église fait fermer les étuves ou les bains publics qui avaient cours depuis l'Antiquité ? On en a parlé ?
Ah oui, oui, oui. L'Église joue un rôle de police religieuse et de police sanitaire en même temps. Hein. Donc, elle peut être amenée à fermer les bains publics parce que porteur d'une pollution, on ne va pas employer ce terme, mais importante et notamment, par exemple, on pense que les femmes qui restent lavées sont des prostituées qui voudraient faire un commerce charnel. Hein.
Donc, à la fois un lieu de débauche, mais aussi à la fois un lieu où on peut transmettre des maladies. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Moyen-Âge, c'est quand même la période des grandes pestes.
Oui, alors c'est une période effectivement de grandes pestes. On connaît tous, ou on a, j'allais dire, le souvenir de la peste noire hein, qui, au milieu du XIVe siècle, a affecté l'ensemble de l'Europe. Hein. On estime à près d'un cinquième de la population européenne qui a disparu à cette occasion-là, en quelques décennies seulement. Et la peste est vécue et considérée comme un mal et non pas une maladie, c'est-à-dire un mal apporté par le malin qui veut punir les hommes et les entraîner donc en enfer. Les remèdes contre la peste seront donc d'abord et avant tout des remèdes religieux, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir par la prière, les processions, les sacrifices, essayer de renouer l'alliance avec Dieu. Et bien sûr, les médecins sont les grands prêtres qui assurent la qualité, en quelque sorte, des prières, des processions et autres offices religieux.
Mais on n'a aucune idée à ce moment-là des voies de contamination réelles et de la manière dont cette maladie se propage.
Non, on imagine que le mal est partout. Hein, le mal est autour de nous, le mal
et dans l'air même.
Bientôt dans l'air, dans l'eau, dans autour de nous et en nous. Hein. Il est très intéressant de remarquer que on ne sait plus à quel saint se vouer, comme dit l'expression. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement on va essayer de trouver des hommes remarquables pour aider les autres à sortir de ce mal. Par exemple, je pense à Saint Roch, qui montre toujours sur les vitraux, sur les peintures d'église, qui montre toujours ses bubons sur sa cuisse, et avec son doigt orienté vers la terre. Donc, c'est la voie à ne pas suivre. Ça, c'est le mal. Et puis, il a la main sur la poitrine et il regarde le ciel. Et là, il indique donc la voie à suivre si l'on veut sortir du mal et atteindre la plénitude et le bonheur avec Dieu.
Dans les grandes villes du Moyen-Âge, il n'y a pas d'égout. On dit que tous les détritus, y compris les excréments, étaient jetés dans la rue. Est-ce que c'est vrai ?
Il faut bien le confirmer, effectivement, c'est exact. Et les chroniqueurs le répètent à l'envi. Hein. On risque, en marchant dans la rue, tout simplement, de recevoir des excréments jetés
des
fenêtres et des étages. Donc, effectivement, y a un risque sanitaire permanent. Et c'est pour ça aussi que se développent beaucoup les maladies épidémiques hein, à l'intérieur des villes. Donc, la ville acquiert au Moyen-Âge ce statut de lieu très dangereux pour la santé des individus et du public.
Est-ce que c'est la raison pour laquelle les communautés religieuses et notamment les moines choisissent de s'en extraire et d'aller vivre à l'écart de ces lieux, disons, de perdition et de saleté ?
Alors, les monastères, effectivement, ont toujours choisi la campagne, hein, les lieux un peu reculés. Alors, c'est pour prier, j'allais dire, en paix, hein, puisque la ville est le lieu des perditions, du bruit et de la mauvaise santé mentale, hein, en somme. Mais aussi, les monastères sont des lieux, amènent une économie intégrée, hein, puisqu'on a comme consigne, en quelque sorte, dans la règle bénédictine, à la fois la prière et le travail. Et c'est assez intéressant de lire justement la règle de Saint-Benoît, parce qu'on se rend compte qu'il y a des conseils sanitaires qui sont donnés en même temps aux moines.
De quel style ?
Du style, pour les travailleurs de force, il est recommandé de boire, non pas de l'eau, c'est bien dit, mais du vin, parce que l'eau est trop dangereuse pour la santé mentale et physique, parce qu'on peut imaginer que l'eau n'était pas de bonne qualité non plus, organoleptique, mais pour la santé mentale, donc, évitez l'eau et buvez du vin, et jusqu'à un litre pour les travailleurs.
Par jour ?
Par jour, hein. Oui, oui, par jour
et
par personne. Hein. Donc, à une époque quand même où la viticulture n'est pas si développée que cela, ça représente quand même un gros effort, j'allais dire, des moines pour cultiver la vigne, mettre tout ça dans les caves et assurer donc une bonne alimentation des monastères.
Peut-être pour conclure cet entretien, Didier Nourisson, la seule eau qui soit une eau bienfaisante et une eau de vie, c'est celle du baptême, à cette période-là ?
Absolument. Il faut que cette eau soit consacrée pour faire effet, en quelque sorte, pour intégrer les chrétiens dans la communauté chrétienne. Et l'objectif, c'est, je le répète, le salut.
Didier Nourisson, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Claude Bernard à Lyon. Je précise également que vous êtes membre du LARA, c'est le laboratoire de recherche historique de Rhône-Alpes, et vous êtes spécialiste de l'histoire de l'hygiène et de la santé. Est-ce qu'avec la période moderne, à la fin du Moyen-Âge, on entre dans une autre façon d'envisager l'hygiène et le soin qu'on apporte à son corps ?
Alors, la modernité sanitaire, si on peut dire, commence effectivement avec le XVIe siècle. Tout change à ce moment-là. C'est le moment des grandes découvertes. Les hommes voient des mondes nouveaux, mais ils se regardent eux-mêmes. Ils commencent à découvrir leur propre corps. C'est le moment des grandes autopsies qui commencent. On pénètre enfin, j'allais dire, l'intérieur du corps. Et c'était voulu par un corps médical curieux, d'abord de trouver l'âme en premier lieu, puis surtout de voir le fonctionnement de cette mécanique assez exceptionnelle qu'est le corps humain. Donc, grande découverte du corps, renaissance du corps médical aussi, puisqu'on a affaire à des médecins qui ne sont pas simplement des valets de l'aristocratie, mais qui deviennent vraiment des humanistes, des savants, qui retrouvent les enseignements des anciens romains ou grecs, Hippocrate, Galien, etc. Donc, on revit en quelque sorte du côté de la médecine. Et cela se traduit évidemment par des attitudes nouvelles en matière d'hygiène et en matière donc de prise en compte de l'individu.
Par exemple,
très concrètement, on voit se multiplier, et c'est permis par le développement même de l'imprimerie, on voit se multiplier les traités de santé. Je pense en particulier à un ouvrage d'un Italien qui s'appelait Luigi Cornaro, qui a d'ailleurs été centenaire et qui a de lui-même a manifesté en quelque sorte cette aptitude à durer dans la vie terrestre. Eh bien, Luigi Cornaro a écrit un ouvrage, un véritable best-seller au XVIe siècle qui s'appelle Le ménager de soi-même. Le ménager de soi-même, eh bien, ça veut dire qu'il va donner des conseils de conservation du corps par une vie pratique et saine, une vie faite de tempérance sur le plan de la consommation des boissons alcooliques, une vie faite de propreté aussi, avec donc des gestes d'hygiène extrêmement importants. Et cela donc à destination d'un public cultivé, qui savait lire évidemment, il n'y en avait pas tant que cela, un public de haute société si l'on veut. Ça va être ce premier moment-là, en quelque sorte, d'une prise de pouvoir des consciences par le corps médical au détriment évidemment du corps clérical qui lui
dominait le Moyen Âge.
Qui dominait complètement le Moyen Âge.
Ça veut dire qu'il y a une forme de laïcisation de la société ?
Voilà, on va risquer même le mot de laïcisation de la
société.
C'est
pas un anachronisme.
Et de la santé hein, du coup.
Allons au bassin. Nous laver les mains, relevons nos manches, mettons-nous en place. Vers l'eau nos corps se penchent, lavons-nous la face en faisant. Usons tout le savon, sans économie. Sur nos joues frottons, il faut que tout brille. Dans nos mains d'eau remplies, nous grognons, nous soufflons en faisant. Plongeons-nous dans le bain, raclons, aspirons, éclaboussons tout autour du bassin. Nous serons mouillés, peut-être gelés, c'est, il faut bien le dire, pas pour notre plaisir que nous parlons.
Avec la découverte du Nouveau Monde et puis d'autres découvertes, est-ce qu'on voit apparaître des produits nouveaux dont on se sert pour le corps ? Des onguents, des crèmes, vous avez parlé d'alcool ?
Oui, alors pour ménager sa vie, eh bien, on va effectivement découvrir et inventer des produits nouveaux en provenance donc de ces nouveaux mondes, utilisant des épices, utilisant des onguents, utilisant des baumes, des matières premières, en tous les cas venues de très loin, y compris d'un monde indigène réputé sauvage, que l'on adapte. Le meilleur exemple, évidemment, que l'on connaît très bien, c'est celui de Catherine de Médicis, hein, reine, mais qui était reine, je disais, des cosmétiques, hein, et aussi qui avait une réputation un peu sulfureuse de sorcière, parce que justement, elle utilisait ses cosmétiques pour elle-même et peut-être aussi pour faire disparaître ses rivales.
Hein. Quel genre de cosmétiques ?
Bah des baumes, des onguents,
des
crèmes, des maquillages en tout genre, et puis des parfums, bien entendu. Hein, et puis aussi, elle pouvait utiliser des boissons qui pouvaient potentiellement se révéler dangereuses pour la santé, c'est-à-dire utilisant des éléments toxiques.
Hein, des poisons.
Effectivement, des poisons.
Vous parlez de maquillage.
Oui, alors le maquillage se développe et c'est dans une attitude de goût de soi. Il s'agit de se montrer belle, bien sûr, de ne
ou
pas
beau,
vieillir.
Parce que les hommes aussi
utilisent
le maquillage.
Oui, mais c'est vrai, les hommes vont beaucoup utiliser le maquillage dans ces milieux aristocratiques. Également parfum, et ça permet aussi de masquer les mauvaises odeurs parce qu'on continue quand même à se méfier assez largement de l'eau. Hein.
Donc la toilette sèche est toujours en cours.
Ah oui, c'est toujours une démarche assez fréquente que l'on réalise. Les conseils médicaux qui se multiplient dans des ouvrages vont dans ce sens-là. Hein.
Dans le sens d'utiliser l'eau le moins possible.
D'utiliser l'eau le moins possible, absolument.
C'est-à-dire qu'on frotte les parties visibles du corps.
Voilà.
Quand on parle de toilettes sèches.
Il y a les parties honteuses hein, qu'il faut surtout pas approcher avec de l'eau. Et puis, il y a les parties visibles qui, effectivement, supportent un nettoyage à l'eau. Mais le mieux, c'est quand même de faire disparaître les mauvaises odeurs par des parfums, de les couvrir par des parfums, plus exactement. Et cela, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, à Versailles, c'est des opérations assez bien connues, n'est-ce pas, de cette utilisation systématique des parfums multiples. Il y a un parfum, par exemple, que l'on va utiliser dans le nez, hein, qui est le tabac, tout simplement. On va se mettre à priser. J'ai beaucoup écrit là-dessus parce que je trouve c'est extrêmement intéressant de voir qu'on s'introduit dans le nez de la poudre de tabac avec des parfums, hein, l'eau de rose et des choses comme ça, afin de se faire plaisir, afin de faire société, c'est-à-dire qu'on va partager le tabac de la tabatière avec ses semblables, et puis donc on assure ainsi une espèce de santé morale et civique par le tabac partagé dans la prise.
Est-ce que Versailles est très sale ?
Alors Versailles est très sale, et pourtant autour du corps royal tourne un bon nombre de médecins qui vont donner donc des conseils de modération un petit peu, mais surtout des conseils sanitaires au roi afin qu'il essaye de modérer ses excès en tout genre, excès de chair dans tous les sens du terme, hein, y compris de femmes, excès de vin. Et ils vont essayer de baliser un peu le comportement royal, parce que le roi, c'est l'État, comme chacun sait, c'est la nation, c'est l'homme à soigner, à entretenir, en quelque sorte, si l'on veut que le royaume soit prospère.
À la claire fond.
Suite de l'histoire.
Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.
Est-ce que on se baigne à Versailles? Est-ce qu'il y a des salles de bain?
Non, il n'y a pas de salle de bain à Versailles. On ne va pas encore à l'eau. Non.
Il n'y a pas des cuviers.
Il y a des bassins dans le parc. Hein.
Ouais, mais il n'y a pas de baignoire ou de choses qui y ressemblent et dans lesquelles on se baigne habillé, non?
Non, pas encore. Non. On ne va pas au bain. Il ne faut pas être trop systématique. Mais enfin,
la pratique
n'est pas du tout courante de se laver à grandes eaux. Les comportements des plus grands sont des comportements publics. On assiste au repas royal, on assiste au lever, etc. Alors, il y a des moments un petit peu de santé, en quelque sorte, hein, d'hygiène, en tous les cas. Au lever, on va passer un linge sur le visage du roi et des choses comme ça, mais on n'assiste pas au bain du roi.
Ça n'existe pas.
Non, ça ne se fait pas.
Et donc, pour en revenir à ce qu'on met sur son corps, on se poudre. On se met du blanc sur le visage, du rose aux joues.
Absolument, oui.
Aux lèvres.
On est enduit de multiples onguents, alors de multiples maquillages, hein, et dans une perspective, effectivement, de paraître beau et agréable en société. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'assez important. On commence à avoir une espèce de plaisir de l'hygiène, de plaisir de prendre soin de soi.
Après, pour le peuple, c'est autre chose.
Le bon peuple n'est pas du tout concerné par tout ça. Hein. La populace, comme on disait volontiers dans ces milieux-là, n'est pas concernée par les soins du corps. On ne peut pas dire qu'il y ait vraiment d'évolution significative. Même dans la conception des épidémies, on reste sur une conception très médiévale des choses. On a peur de l'action dans le peuple, je veux dire, on a peur de l'action du malin plus que des maladies proprement dites. Donc, les comportements sanitaires du peuple, en quelque sorte, sont toujours des comportements religieux.
Didier Nourisson, ce qui fait la particularité du 19e siècle, c'est la prise en charge par l'État de la propreté et du souci d'hygiène de manière collective. Une approche générale de cette question. Est-ce qu'il y a une prise de conscience particulière qui se fait là?
En fait, oui, mais tout avait commencé à peu près au milieu du XVIIIe siècle, hein, c'est-à-dire au moment de l'arrivée dans ce siècle des Lumières de philosophes, médecins, moralistes qui vont viser à instruire le peuple, à développer une conscience au plus haut niveau de la société aussi pour une efficacité nouvelle de l'État et en particulier dans le domaine de ce qu'on n'appelle pas encore, mais ce qui deviendra la santé publique. Et je crois que ça, c'est important de rappeler ce rôle de ces intellectuels, de ces grands intellectuels qui sont aussi des faire-valoir, en quelque sorte, d'une politique hygiéniste qui se met en place. Alors le mot hygiénisme est un mot récent, on va dire, mais ça signifie bien, ça désigne bien la politique de santé publique qui va commencer à être imaginée par les philosophes et appliqué, on va dire, au lendemain de la Révolution, dès lors que les turbulences révolutionnaires seront un peu calmées, donc début 19e siècle, on va pouvoir lancer ces premières campagnes, ces premières opérations de santé publique à l'initiative, je répète, de ces philosophes du genre Diderot, par exemple, du 18e siècle.
Qui passent par quoi alors ces campagnes? Qui ont quel objectif?
Alors l'objectif, c'est très moderne, hein, c'est l'environnement, hein, c'est surveiller en quelque sorte l'environnement de l'homme par les moyens de l'époque, mais quand même, hein, c'est l'air, c'est l'eau. Hein, donc vous allez avoir une interpellation des autorités publiques pour améliorer la qualité de l'air, améliorer la qualité de l'eau. C'est d'une modernité étonnante, hein, enfin celle qui nous étonne peut-être 2 siècles plus tard. Il faut dire que le 19e siècle voit effectivement un État protecteur de ses citoyens. Désormais, les premières mesures de santé publique sont d'éloigner les industries insalubres du centre-ville. Nous sommes au début de la révolution industrielle, mais on va se mettre à éloigner très vite les abattoirs, par exemple, des centres-villes, à éloigner également les cimetières qui étaient autour des églises de centre-ville. Et ça, ce sont des mesures prophylactiques pour essayer d'améliorer et d'éviter ce qu'on appelait les odeurs méfiques à cette époque, les miasmes en tout genre. On va aussi voir les premières tentatives et volontés d'améliorer la circulation des eaux.
Avec un réseau d'eau courante ?
Avec, non pas un réseau d'eau courante, mais un réseau d'égouts en premier lieu, d'évacuation des eaux insalubres, hein, qui se répandaient donc librement jusqu'alors. Et on voit de la part de ces médecins qu'on qualifiera bientôt d'hygiénistes se développer une telle politique au plus haut niveau de l'État. Enfin, à Paris, par exemple, dès les années 1820-1830, on commence à voir se mettre en place ce réseau d'égouts.
Oui. 1820-1830.
Oui. Et de la part donc de ces médecins hygiénistes, on rappellera que, par exemple, les Annales d'hygiène publique, c'est une revue qui est créée dans les années 1830 et avec des noms de grands savants comme Villermé, par exemple, qui s'intéresse beaucoup à cela, ou Rambuteau, ou des noms de grands médecins qui s'intéressent beaucoup désormais à la prophylaxie, tout autant que, sinon plus, à la thérapeutique.
Bande de lavettes, vous n'êtes tous qu'un ramassis de poules mouillées. Il n'est pas né celui qui me forcera à me laver, si j'en ai pas envie.
Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on voit réapparaître dans les villes les bains publics ou les douches publiques qui avaient disparu, on l'a vu, au Moyen-Âge, à la demande de l'Église ?
Alors, on va voir effectivement se réinstaller des bains publics de manière à laver le peuple, si j'ose dire, hein, puisqu'il n'y a pas d'eau courante dans les habitations. Il faut acheter son eau. L'eau vous est livrée éventuellement par des porteurs d'eau. Enfin, c'est assez
compliqué.
Assez compliqué.
Il y a des fontaines pourtant dans les rues, non ?
Il y a des fontaines, bah, il faut aller la chercher, cette eau qui est à boire, mais qui n'est pas nécessairement toujours très potable. Pourtant, voilà. Alors, on va faire de gros efforts là-dessus, progressivement, il faut de l'argent. Bien dire, bien rappeler que c'est en lien aussi avec la révolution industrielle, hein, qui permet d'améliorer la qualité de l'eau, qui permet de construire les réseaux d'adduction, d'assurer la fabrication tout simplement des tuyaux, au risque évidemment, on le sait pas encore, mais de provoquer une nouvelle maladie, hein, qui est le saturnisme par exemple. Il s'agit souvent de tuyaux de plomb, mais il y a une vraie volonté d'améliorer la santé collective. Et puis, ça va se traduire aussi par une politique du logement. Hein, on va se rendre compte assez vite, évidemment, que les maladies se propagent, se développent à cause des taudis. Donc, il va y avoir une politique du logement qui se met en place, en particulier au milieu du 19e siècle, pour construire des logements aérés, des logements plus clairs. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain, on est bien d'accord là-dessus.
Ça a aussi des conséquences sur les plans d'urbanisme. On élargit les rues, on crée des avenues. C'est un peu, la volonté de Haussmann pour aérer, justement, pour faire en sorte que les miasmes et les microbes disparaissent autant que possible.
Vous avez complètement raison. Hein, et bien avant Haussmann, hein, dès les années 1820, on commence à penser des plans d'urbanisme. Hein, je pense en particulier à Saint-Étienne, hein, en 1820. On crée des grandes rues, des grandes avenues qui se coupent angle droit, qui sont ventilées au maximum pour chasser les miasmes, comme on disait. Hein. Et cela définit des nouveaux profils de la ville. Alors la ville était traditionnellement le lieu de tous les dangers. Voilà qu'elle devient maintenant un lieu de plus en plus sanitairement correct, qui se corrige en quelque sorte.
Est-ce que avec l'industrialisation, on voit apparaître des produits de soins beaucoup plus facile d'accès, que l'on peut acheter dans les grands magasins, notamment à Paris, et qui deviennent accessibles à tous?
Oui, bien sûr. Effectivement, la révolution industrielle va permettre notamment le développement de la chimie minérale et artificielle, va permettre de lancer sur le marché des produits nouveaux et que tout le monde attend. C'est-à-dire qu'il faut bien penser qu'il y a vraiment un lien étroit entre l'offre et la demande qui naît de la révolution industrielle. Alors, vous avez des filières industrielles qui se mettent en marche. Je pense à la filière des boissons, par exemple, qui va proposer une gamme de produits très large et avec une publicité qui prend appui sur des arguments sanitaires.
Par exemple ?
Par exemple, l'apéritif. Les apéritifs.
À base d'anis ?
Non, pas nécessairement. À base de vin, à base de plantes, certes, multiples.
Mais dans quel but alors ?
C'est très concurrentiel
comme secteur.
Et le but, c'est effectivement, dit-on, de santé. Je prends un exemple bien particulier, qui est l'exemple d'une entreprise qui existe encore, qui s'appelle Suze, qui voit le jour en 1837 et qui est à base de vin du Roussillon et de plantes qui macèrent dans ce vin et qui va se réclamer donc d'une tonicité, donner de la tonicité, donner de l'énergie, autrement dit, aux individus et notamment aux individus qui ont des problèmes de faiblesse, de pâleur très grandes. Donc, Suze va jouer là-dessus de manière systématique et c'est pourtant un produit alcoolique mais qui
à consommer avec modération désormais.
À l'époque, non. À l'époque, c'est pas du tout ce que l'on va dire.
Un seul savon suffit pour les soins du corps et les soins de beauté.
Savon Cadom.
Un seul savon convient pour monsieur, madame et bébé.
Savon Cadom.
Un seul savon fait une mousse aussi légère, aussi fine, aussi fraîche.
Savon Cadom.
Un seul savon nettoie aussi bien, sans irriter la peau.
Savon Cadom.
Le seul vrai savon Cadom, c'est celui qui porte la tête du célèbre bébé Cadom.
D'ailleurs, le mot alcool, Didier Nourisson, c'est intéressant de s'arrêter un instant sur ce mot.
Oui, alcool, c'est intéressant parce que c'est un mot qui vient de l'arabe alcool, qui signifie, un maquillage que les belles arabes se mettaient sur les yeux afin de paraître plus belles et puis aussi peut-être d'avoir une attitude de santé. Alors l'alcool donc devient un produit quasiment démocratisé au 19e siècle de manière libre et efficace sur le plan, pense-t-on encore, sur le plan hygiénique.
Est-ce que c'est au 19e siècle qu'apparaissent les produits, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les produits ménagers ? Les détergents, l'eau de Javel, des choses comme ça.
Voilà, tout apparaît à ce moment-là. Les années 1800, on apprend à blanchir le linge avec de l'eau de Javel, par exemple. Et effectivement, il va y avoir donc tout cet accompagnement des politiques de santé publique par des produits de soins corporels et en grand nombre. C'est assez intéressant de voir l'évolution des savons, la fabrication des savons.
Avec de l'huile d'olive.
Avec de l'huile d'olive. Ou de l'huile de palme, parce qu'on va évidemment réaliser aussi la conquête d'un empire colonial considérable et on va pouvoir planter des palmiers et utiliser l'huile de palme pour fabriquer des savons. Le fameux savon de Marseille, pour ne pas le citer.
Didier Nourisson, le 19e siècle marque véritablement une date importante dans la façon dont on envisage le soin du corps, l'hygiène, la propreté. On a vu avec vous que l'État s'empare de cette question et met tout en œuvre pour permettre à la population d'accéder au minimum, disons. Le 20e siècle commence peut-être avec Pasteur quand on parle de ces questions d'hygiène.
Eh bien oui, le pastorisme, on va dire comme ça à l'époque, le pastorisme c'est effectivement la découverte de monstres invisibles, des microbes qui circulent dans l'air, dans l'eau et dans le corps, donc partout, qui sont parfois des microbes dangereux, hein, des toxiques pour la santé humaine. Et cela va inciter évidemment et dynamiser, on va dire, les hygiénistes en premier lieu. Donc dès les années 1870, on voit se mettre en place en France une politique de l'hygiène publique grâce aux pastoriens, c'est-à-dire aux partisans de Pasteur, qui, en utilisant la microbiologie et le microscope, vont découvrir d'abord l'origine de nombreuses maladies épidémiques. Tout le monde connaît le bacille de Yersin, par exemple, c'est le bacille de la peste. On va découvrir le bacille du choléra, on va découvrir, pas chez Pasteur, mais en Allemagne, le médecin Kor va découvrir le bacille de la tuberculose. Et cela va déclencher donc des politiques et des campagnes de santé publique de plus en plus intenses, parce qu'on a très peur de ces maladies épidémiques et il va falloir lutter donc contre ces microbes dangereux.
Et alors au quotidien, on commence à intégrer l'idée que se laver les mains, c'est utile et que la pasteurisation ou le fait de faire bouillir les choses élimine la quasi-totalité des microbes.
Voilà, donc de manière domestique, on va faire bouillir l'eau pour pasteuriser, c'est-à-dire améliorer la qualité de l'eau en tuant les microbes. On va se laver les mains et même maintenant tout le corps, même les parties honteuses qu'on n'osait pas bien laver auparavant. Parce que l'eau...
On s'est réconcilié avec
corps,
l'eau.
Voilà, on se réconcilie avec l'eau par la même occasion. L'eau courante sur le corps évacue donc bon nombre d'impuretés.
C'est-à-dire qu'on se débarrasse de l'idée que la crasse ou la saleté protège le corps, contrairement à ce qu'on a cru pendant longtemps.
Voilà. Les analyses au microscope montrent justement qu'avec la crasse, on a beaucoup de développement de ces fameux microbes. Donc, exit les croûtes, exit les petits monstres invisibles, par exemple les poux, dont on fait la chasse dorénavant de manière assez systématique et tout particulièrement à l'école.
À l'école.
Alors, l'école va devenir un haut lieu de santé publique à partir justement du moment où elle est démocratisée, donc en gros, avec les réformes de Jules Ferry dans les années 1880, on voit arriver en grande masse les enfants à l'école, 5 millions d'enfants chaque génération, en quelque sorte, c'est énorme, et là, on va pouvoir faire une instruction sanitaire soutenue et on va avoir pour exigence des établissements scolaires sanitairement corrects, bien entendu, les deux vont ensemble. Il va y avoir à la fois une hygiène par l'éducation et une hygiène des bâtiments scolaires eux-mêmes.
Envoyez la réclame.
C'est grâce à ton père, si tous les cheveux deviennent merveilleux, brillants et soyeux.
Vous consacrez un livre à cette question, je le rappelle, Didier Nourisson. Ça s'appelle « Propre et sain, un siècle d'hygiène à l'école en images ». C'est paru chez Armand Collin. Vous avez écrit ce livre avec Stéphane Friou, un livre dans lequel on trouve des tas de photos qui illustrent justement cette politique et cette volonté d'apprendre aux enfants le minimum pour vivre en collectivité, en essayant d'avoir des règles d'hygiène accessibles à tous.
Oui, alors l'originalité de ce livre, si j'ose le dire, c'est justement de prendre à témoin les images en provenance de l'école et de faire parler en quelque sorte les images. Donc c'est pas très facile à la radio, mais il faut savoir que ces politiques d'hygiène à l'école vont susciter une efflorescence iconographique extraordinaire parce que l'image parle beaucoup aux enfants et on va donc utiliser des buvards scolaires, on va utiliser des tableaux muraux, on va utiliser tout un matériel, alors évidemment des manuels scolaires d'hygiène, on va utiliser des films d'enseignement pour dire la santé, pour apprendre la santé.
Et aussi faire des campagnes de vaccination, c'est important d'en parler.
Et puis, à l'école, on commence systématiquement les campagnes de vaccination dès lors que donc il y a des lieux qu'on appelle les écoles qui sont dédiées à l'éducation, les médecins et les infirmières vont pouvoir commencer à vacciner. C'est la loi de 1902, par exemple, qui rend la vaccination contre la variole obligatoire pour la première fois. Et ensuite, il y aura d'autres vaccinations obligatoires qui vont être réalisées au sein de l'école, parce que la vaccination, ça a longtemps été un peu rejeté au 19e siècle, en tous les cas, par une bonne partie de la population.
À partir de là, l'espérance de vie, bien sûr, augmente de manière spectaculaire.
L'espérance de vie peut augmenter de manière spectaculaire, effectivement.
Et la mortalité infantile baisse.
On avait une moyenne d'espérance de vie dans les années 1900 encore de 50 ans. Hein, à la naissance, et là on en est maintenant à 80.
Pas tout à fait le double, mais pas
86
loin.
86 ans à peu près.
Alors la salle de bain, au 19e siècle, dans certaines maisons bourgeoises, on commence à voir apparaître des lieux dédiés à la toilette.
Alors,
des cabinets de toilettes.
Voilà, on avait dit que pour le 19e siècle, l'État, enfin les collectivités publiques avaient lancé les établissements de bain pour tous. Le 20e siècle va permettre la mise en place de l'eau courante, de réseaux d'eau courante jusque dans les logements, pour dire vite, mais à partir en gros des années 1930. Donc on va pouvoir créer véritablement des salles de bain à ce moment-là et valoriser ces salles de bain comme étant le principe même de la modernité. Un peu comme l'électricité qu'on voit courir sur les fils, fait très moderne, eh bien l'eau coule du robinet ou de la douche ou de la baignoire
dans
les salles de bain et sur soi. Alors c'est donc participer de la modernité de manière très claire.
Hein. Eau chaude ou eau froide ? Uniquement de l'eau froide ?
Ah ben d'abord,
ou alors, on
l'eau froide, l'eau froide, et puis après, effectivement, on va réussir à trouver les moyens de chauffer l'eau. Donc, on aura après l'exigence des deux robinets, bien avant le mitigeur, évidemment, qui mélange tout ça.
Ah, qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Ah, qu'on est bien quand on est dans son bain. On chante sous la mousse pour les voisins. J'aime ma brosse à poil dur.
Donc là, le soin du corps explose aussi avec des tas de produits, notamment peut-être après la Deuxième Guerre mondiale, et les produits cosmétiques et la droguerie.
Ah bien sûr, hein. La cosmétique à la part belle, il se construit aussi des multinationales de la cosmétique hein, dans notre pays, pour ne pas citer L'Oréal par exemple, qui va offrir aux populations et pas seulement, j'allais dire, aux classes supérieures de la société, des produits multiples, de plus en plus attirants, que la publicité intensive des Trente Glorieuses permet d'attirer et que l'on débitera en quelque sorte dans des grandes surfaces dorénavant, beaucoup plus encore que dans des drogueries qui vont en fait disparaître. Hein. Les drogueries de mon enfance sont mortes.
Et c'était là qu'on achetait tous les produits de la maison.
Ah ben voilà, donc vous aviez les produits ménagers, vous aviez les produits sanitaires et d'hygiène du corps à disposition et à discrétion. Alors bon, les pharmaciens ont récupéré une partie de ces produits-là, une petite partie, puis surtout les grandes surfaces aujourd'hui qui vous proposent une gamme extrêmement étendue dans le domaine.
Pour conclure ces entretiens, Didier Nourisson, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, vous avez parlé de politique hygiéniste, est-ce qu'aujourd'hui on atteint des sommets dans l'obsession justement de l'hygiène et de la propreté, ou bien on a trouvé un équilibre dans ce domaine-là ?
Puisque vous me demandez mon avis de citoyen, je vous dirais qu'il y a un recul considérable de l'hygiène au sens propreté. Jamais on a vu autant de gens cracher par terre, et c'est souvent même valorisé par les médias. Quand on voit un footballeur qui crache sur un terrain, c'est un mec, hein, en quelque sorte. C'est un caïd. Recul de la propreté aussi dans les usages quotidiens. On ne dit plus, on ne rabâche plus aux enfants qu'il faut se laver les mains avant de manger ou après manger, etc.
Pourtant, il y a des campagnes quand même qui sont faites, notamment quand, en période d'épidémie de grippe.
Ben alors justement, ça paraît un peu surréaliste à notre époque d'être obligé de rappeler qu'il faut se laver pour éviter des contaminations faciles. Hein.
Vous avez le sentiment qu'il y a un recul?
Ah, il y a un recul extraordinaire. Hein, et je pense que tous les partisans de la santé publique ou tous les experts de santé publique l'admettront volontiers. On a d'autres éléments de danger, hein, les grandes maladies épidémiques qui reviennent en force. Vous parliez de la grippe, par exemple. Du coup, la propreté ordinaire, quotidienne, ne semble plus une priorité. Voilà.
Merci beaucoup, Didier Nourisson, de nous avoir parlé de l'hygiène à travers les siècles. Je rappelle que c'est votre spécialité. Vous êtes historien. Vous enseignez à l'université Claude Bernard à Lyon. Vous êtes donc spécialiste de l'histoire de la santé et de l'hygiène. Et puis, je rappelle le dernier ouvrage que vous publiez chez Armand Collin. Ça s'appelle « Propre et sain ». Un siècle d'hygiène à l'école en images. C'est un livre que vous avez écrit avec Stéphane Friou, qui est maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Lumière Lyon 2. Et je précise que vous êtes tous les deux membres du LARA, le laboratoire de recherche historique de Rhône-Alpes. Merci beaucoup Didier Nourisson.
Merci à vous.
Dans ces entretiens, vous avez pu entendre des extraits des films Astérix et Cléopâtre de Uderzo et Goscinny, Les Visiteurs de Jean-Marie Poiret, Blanche-Neige et les Sept Nains de Walt Disney, et un merci particulier à Elisabeth de Monclos qui m'a aidé à préparer ces émissions.